Vous écoutez une émission réalisée dans le cadre d'un partenariat entre la délégation départementale aux droits des femmes et à l'égalité, Radio Campus Amiens et Speech, le nouveau média des étudiants du Master Journalisme de l'UPJV. Dans cette émission, vous retrouverez différents sujets ayant pour objectif de sensibiliser aux violences sexistes et sexuelles. En France, plus d'une femme sur deux a déjà subi une violence sexuelle. 94 000 femmes sont victimes de viols ou tentatives de viols et 213 000 sont victimes de violences physiques ou sexuelles de la part de leur conjoint ou ex-conjoint chaque année. Il est temps que ça s'arrête.
Il existe différents types de formations dispensées aux policiers et aux associations afin d'aider les victimes de violences sexuelles et sexistes. Vous voulez en savoir plus sur la façon dont ces professionnels gèrent le recueil de la parole ? Comment ça se passe à partir du moment où les victimes décident de parler ? Qui leur répond et par quels moyens ?
Bonjour.
Bonjour.
On a rendez-vous avec commissaire Wetterman.
D'accord.
Est-ce que vous avez des nouvelles formations concernant l'accueil de ces victimes ?
Il y a toujours eu des formations pour la prise en charge des personnes victimes de violences sexuelles ou sexistes et autres violences conjugales. Depuis, on va dire, 2010, on a eu une accélération de la prise en compte et puis surtout une prise de conscience que ce type de phénomène, d'une part, était particulièrement présent dans la société et qu'en plus, ça nécessitait une spécialité de la part d'un certain nombre d'acteurs, comme les policiers, à la fois sur le terrain, dehors, qui vont intervenir dans les domiciles des personnes concernées, par exemple, et à la fois des personnes qui vont recueillir les plaintes. En termes de formation, tous les policiers, ils ont une sensibilisation à comment fonctionne le mécanisme de violence conjugale et le mécanisme d'emprise psychologique qu'on peut retrouver dans les couples, de façon à pouvoir déjouer les premières sécurités qui sont mises en place, notamment par les victimes, qui, en fait, souvent, elles protègent leur agresseur. Sur les formations spécifiques, notamment les enquêteurs en matière de violence conjugale, eux, ils ont un module supplémentaire à faire pour aller plus loin. Quand on parle de formation des policiers, c'est d'une part écouter la victime, mais c'est aussi de lui expliquer ce qui va se passer. Parce que c'est souvent ça qui pêche et les victimes, elles comprennent pas dans quoi elles sont prises, comment ça fonctionne.
Par rapport à tous ces dispositifs d'accueil, est-ce que vous en avez pris connaissance pendant votre formation ou essentiellement durant votre carrière ?
Moi, je suis sortie de formation en 2019, donc j'étais à l'école des commissaires entre 2017 et 2019. Donc c'était en plein dans la grande cause nationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc c'était déjà quelque chose qu'on travaillait particulièrement en école de commissaire. Une fois sortie d'école, on était passé justement l'année 2019 qui a été comme une année assez charnière avec le développement de plein d'outils aussi qui ont été mis en place, notamment la plateforme nationale des violences sexistes et sexuelles. C'est en gros un chat avec des policiers qui sont sur cette plateforme H24, 7 jours sur 7. On a des formations qui reviennent, alors on a de la e-formation qu'on peut faire seul depuis nos postes de travail. On a aussi des formations qui nous sont réservées, soit avec des partenaires, soit exclusivement police. Et ça, c'est tout au long de la carrière. Et effectivement, on voit qu'il y en a peut-être encore plus aujourd'hui qu'il y a 4-5 ans.
Donc depuis quelque temps, il y a de nouvelles procédures en commissariat, notamment en ligne. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le cheminement de ces dispositifs ?
La prise en compte du numérique, c'est devenu indispensable, même pour la police. On est sur les réseaux sociaux, sur Twitter, même sur TikTok. Maintenant, c'est devenu un outil pour toucher un maximum de monde, et notamment les jeunes.
Comment encourager les victimes à venir au commissariat ?
Avant le recueil et l'accueil, il y a comment elle va se diriger vers le commissariat. Donc effectivement, la plateforme, c'est un des moyens, parce que à partir du moment où elle est rassurée sur ce qui va se passer, parce qu'il y a beaucoup de victimes qui disent « moi, je savais pas qu'on allait bien me recevoir » ou « j'avais un peu peur qu'on me reçoive pas bien ». Mais il y a aussi l'accueil dans les locaux. En gros, on a un tableau avec une vignette orange et une vignette bleue. Elle a juste à dire « je viens pour un code orange » et on lui pose pas de questions, on lui demande pas quel type de code orange, machin. On sait que code orange égale attention, c'est du vif, des violences conjugales ou des violences sexuelles, et dans ce cas-là, on la prend à part.
Est-ce que vous travaillez avec d'autres services comme des associations ? Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ces associations-là pour juste aider au mieux les victimes ?
Ici, à Amiens, il y a beaucoup d'associations. Donc on a Agena, avec qui on est très proche, qui s'occupe aussi beaucoup du logement des victimes de violences conjugales. On a le CIDFF.
Bonjour, vous avez rendez-vous que Madame Jasko ?
C'est ça, oui.
Installez-vous.
Merci.
En tant qu'association spécialisée dans l'aide aux femmes victimes de violences, quelles sont vos procédures d'accueil ? Est-ce qu'il y a un type d'accompagnement spécifique ou un cheminement ou...
Le CIDFF de la Somme, on dispose de deux accueils de jour. Donc un accueil de jour à Abbeville et un accueil de jour à Péronne. Ce qui fait que du coup, les victimes peuvent se présenter à n'importe quel moment dans les bureaux. Donc nous, on a une équipe pluridisciplinaire qui va pouvoir répondre à des questions particulières sur la situation.
Est-ce que vous avez eu des formations exprès pour accueillir ce genre de public ?
Toutes les personnes du CIDFF ont une formation de base. Par exemple, une juriste, une conseillère en insertion professionnelle. On a une psychologue aussi qui intervient. Donc elles ont toutes une formation métier, on va dire, de base. Et ensuite, c'est notre fédération nationale des CIDFF qui, du coup, nous procure des formations spécifiques sur les violences. Du coup, toute personne qui le veut peut avoir ces formations-là.
Quels sont, selon vous, les réflexes à adopter ?
Surtout, que vous soyez témoin ou victime, et j'insiste bien sur le fait d'être témoin, même si c'est un doute, contactez des structures, faites parler, parce qu'il ne faut pas que les victimes, que ce soit des hommes ou des femmes, hein, qui soient victimes de violences, restent toutes seules dans leur coin et sans aide. Ça, c'est la pire chose qui puisse arriver. Venez dénoncer les faits, dénoncer les faits aux forces de l'ordre. Et si vous n'êtes pas entendu ou si vous n'avez pas envie d'aller au commissariat ou en gendarmerie, allez dans une association, et peu importe laquelle, hein, allez dans une association et parlez-en. Vraiment, transmettez l'information pour que nous, on puisse prendre le relais.
Le 8 mars marque la Journée internationale des droits des femmes. Nous avons rencontré Elsa Cheminel et Guillaume Azevedo d'Acosta, deux comédiens qui ont joué cette année une scène de violence conjugale. Un sujet assez compliqué à traiter.
Ferme-la.
Je te déteste.
Dis-le que j'ai raison. Dis-le.
T'es un malade.
Dis-le que j'ai raison. Dis-le que t'es une folle alliée.
Tu me fais mal. Arrête.
Est-ce que tu peux nous reparler de ton rapport à la scène et aux violences conjugales, justement, comme...
Au tout début, quand je l'ai commencé, je l'ai pris vraiment... je l'ai lu et... on sentait déjà que c'était violent. Et en fait, la scène, ce qui se passe, c'est qu'au tout début, c'est la fille qui tape en premier et le mec répond et il lui donne une claque également. Et ensuite, ils se battent entre eux et avec toutes les provocations, le mec, il vient étrangler la femme. Et on l'a fait 2, 3, 4, 5 fois. Et à force de la faire, ça a dépassé le cadre du comédien. Ça m'a vraiment touché après personnellement dans ma vie. Et je me suis dit, en fait, j'ai pas envie de ça. Et du coup, on s'est posé et on s'est demandé comment faire pour que ça aille mieux. On n'a pas forcément inversé la situation, mais on va dire que j'esquisse un geste à un moment, mais je le finis pas. Et en fait, on s'est rendu compte que, ok, y a, par exemple, quand on met une claque, il y a l'impact. Mais la violence commence au moment où on lève la main, tout court, en fait. Et je préférais montrer cette violence du geste qui amorçait, mais qui finit pas. Parce que, ouais, de taper la comédienne, moi, j'aimais pas. Par contre, moi, de me faire taper, ça me dérange pas. Mais elle, ça la dérange aussi, je crois, de me taper.
Dans la première version de notre scène, là, on a gardé la gifle pour Guillaume, mais Guillaume me giflait aussi. Et on s'est rendu compte que ça nous mettait vraiment mal à l'aise, en fait.
Moi, je me sentais pas bien de le faire, en fait. Moi, ça me plaisait pas. C'est ce que je disais, c'est que ça débordait sur moi, en fait. Je vais pas aller dans cet extrême-là, mais j'avais du mal à me regarder dans la glace, ou alors je culpabilisais. Je pense que ça peut être peut-être une bonne chose, ou alors peut-être que je fais pas assez bien mon métier de comédien, mais je sais pas, tu vois.
Et donc, justement, pourquoi avoir choisi une scène de violence conjugale, en fait ? Est-ce que c'est parce que expérience personnelle ?
Alors, cette scène, on l'a choisie pour les concours. Enfin, elle me l'a proposé, je l'ai lu avec elle et j'ai accepté. Et je pense que c'est une scène qui est parvenue à nous parce qu'en ce moment au théâtre, il y a beaucoup de pièces en fait, qui sont montées sur tout ce qui est violence conjugale.
Et donc, est-ce que ces genres de scènes pourraient servir de prévention ?
Oui, enfin, c'est sûr qu'il y a toujours cet aspect-là, mais en fait, le problème, c'est que le théâtre, aujourd'hui, il touche pas assez en tout le monde. On le voit, en fait, il y a des écarts de génération au théâtre. On va dire que les personnes qui ont entre 30 et 50 ans, on les voit beaucoup moins. Et les jeunes qui viennent, c'est déjà souvent des jeunes qui sont dans le théâtre. Donc ça sensibilise quoi qu'il arrive, mais pas assez, en fait.
Donc pour incarner une telle scène, ça demande une certaine préparation. Est-ce que tu as fait appel à des personnes pour bien incarner le rôle et pour aussi peut-être... ne pas heurter les gens qui ont été touchés par des violences.
D'un point de vue personnel, moi, j'ai jamais connu de violence conjugale. Non, en fait, je me suis pas du tout renseigné. C'est venu d'une scène. Je parlais tout à l'heure. Elle était venue au conservatoire pour justement qu'on fasse un stage sur sa pièce. Et c'est de là où en fait j'ai été confronté à la violence, mais par le biais du théâtre en fait, qui m'a sensibilisé en fait sur cette violence et que c'était pas forcément que des coups donnés. Ça peut être des paroles. Des reproches sans cesse, enfin voilà, c'est très psychologique. Moi, du coup, ouais, de mon côté, j'ai pas du tout essayé d'aller voir les gens qui ont connu ça, en fait. Il y en a, ils peuvent aimer, d'autres non, mais en fait, il y a un certain recul quand je vais le jouer.
Comment on se prépare un rôle comme ça ? Est-ce que mentalement, tu te fais tout un masque, entre guillemets ? Enfin, comment tu fais pour... Parce que tu avais dit que ça t'avait touché quand même, et c'est normal. Mais comment tu fais sur scène pour faire abstraction en fait, de tout ça ?
Bah, du coup, pour me préparer, j'essaye déjà de rentrer dans le rôle, qui peut ne pas être super compliqué, parce que c'est quelqu'un qui va taper une femme, c'est très, très éloigné de moi, en fait. Donc, de ce point de vue-là, c'est assez facile. Donc j'essaye de me créer une haine ou alors un énervement. Le théâtre, c'est réexpérimenter des choses. Donc quand on l'a expérimenté une fois, deux fois, trois fois, après on peut, si l'émotion ne vient pas, la falsifier. Parce que plus avec le recul, quand on est à la maison et qu'on débrief tout seul, on se dit « ouais, c'est quand même chaud ». Du coup, ça nous fait réfléchir. C'est pour ça qu'on a changé ce qui se passe un peu dans la scène.
Et quand tu dis que vous avez changé ce qui se passe dans la scène, c'est-à-dire ?
La scène, c'est... une femme qui veut se disputer avec un homme, elle veut coucher avec lui et tout, et elle voit que lui, il n'a plus du tout envie, et elle le provoque jusqu'à ce que l'énervement monte chez lui. Et quand elle voit que ça ne marche vraiment pas, le dernier recours qu'elle trouve, c'est de le taper. Il se retient, et elle le provoque, et ensuite, il va la taper. Et de là, ensuite, elle est contente, parce qu'enfin, il répond à ses attentes, c'est-à-dire qu'elle, ce qu'elle voulait, c'était un contact, peu importe de quel type, et elle l'a. Et ça dérape, parce que ben, au final, il va jusqu'à l'étrangler, et c'est là où elle lui dit « arrête » une première fois, et une deuxième fois, elle lui dit d'arrêter, puisqu'elle n'arrive plus à respirer. Moi, je le joue de manière à ce que, vu qu'il perd le contrôle, qu'on sente que c'est vraiment... il est sorti de lui, en fait.
C'est toujours la même chose avec toi. Monsieur veut pas parler, monsieur est fatigué, monsieur s'enferme dans sa bulle, monsieur flotte au-dessus du monde.
Qu'est-ce que tu racontes ?
Si tu veux le savoir, j'en peux plus de ton attitude. Tu m'énerves avec tes airs de pas comprendre ce que je raconte, comme si tu tombais d'une autre planète. Tu penses que t'es au-dessus de moi, au-dessus de tout le monde? Tu penses que t'es différent? T'es pas différent. T'es juste un homme qui sue, qui ronfle et qui rote. Tu te prends pour un être exceptionnel qui regarde le monde et qui comprend tout. Et tant pis pour les autres qui lui demandent une petite chose. Ils ont juste à se débrouiller. Débrouille-toi, chérie, pour calmer la petite douleur que t'as dans le ventre. Débrouille-toi pour trouver un sens à ta vie. Moi, je suis fatiguée et de toute façon, je comprends rien à ton charabia. Et j'ai une grotte vide à l'intérieur de moi. Et si tu veux, je te fais une visite guidée. Tu vas voir, c'est immense et c'est noir et il fait froid. Tu ferais mieux de prendre une
torche. Hystérique.
Pardon ?
T'es complètement hystérique. Les mots sortent de ta bouche comme l'eau des chutes Niagara. Ça s'arrête jamais. Jamais, jamais. Et les gens, ils sont en dessous, ils essayent de pas être engloutis dans tes pensées, tes délires. Ils se noient dans tes questions, tes doutes, tes mensonges. Tes milliers de mensonges qui s'accumulent les uns par-dessus les autres. Toi, tu parles que de toi. Tu prends tout l'oxygène dans une pièce. Le moindre petit carré de silence, tu le bouffes. Et tu mastiques tout, bien fort, bien comme il faut. Et tu recraches tout partout, par terre, sur moi. Des lambeaux de tes délires sur moi. C'est gluant, ça pue et c'est insupportable.
Et toi, Ton petit air mystérieux, tes silences, ta froideur, tu penses que ça colle pas sur moi peut-être? Ça rampe dans la pièce comme des reptiles gluants, et ça s'enroule autour de mes bras, de mes jambes, de mon cou, et ça me glace.
Arrête!
Bah vas-y! Vas-y, frappe-moi si t'as pas peur! Arrête de jouer les gars cool pour une fois! Vas-y, montre-le ce que t'as dans le ventre!
Ne me provoque pas.
Vas-y, montre-la ta rage, ta rancune, ta haine de moi!
Et justement, jouer une scène comme ça, ça a des répercussions un peu sur la vie personnelle, sur comment on prend en compte toute cette violence qui existe vraiment, et même pour le jeu, comment se sentir après jouer une telle scène.
Quand on est comédien, du coup, ça part toujours forcément de nous, nos réactions, côté vraiment son partenaire. C'est intense quand on est dedans, mais quand on en sort, ça, enfin, moi, ça me rend triste pour les gens à qui cette situation arrive vraiment, parce que malheureusement, il y a vraiment des couples qui ont besoin de cette violence pour se sentir bien, et des personnes qui sont battues, mais qui l'ont pas demandé non plus. C'est quand même dur de dire que cette réalité-là existe dans la vraie vie. Que nous, là, on se dit que c'est une scène, ça n'a pas de répercussions sur nous, mais ça existe dans la vie, quoi.
Quand j'ai abordé la scène, en fait, je me suis pas posé la question est-ce que ça arrive, est-ce que ça arrive pas. Je me suis pas dit est-ce que je suis légitime ou non et tout. Mmh. On est des comédiens et surtout au théâtre, je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir vécu quelque chose pour le jouer. Dans la version qu'on a présentée,
c'est Jean et Béatrice de Carole Fréchette.
Je me sens beaucoup mieux quand on la termine et ensuite je perds le contrôle parce qu'elle me pousse à bout, elle me tape et tout.
Il y a vraiment un truc. C'est vrai que. Enfin. Le fait de ne pas bouger, j'avais vu des témoignages de femmes qui disaient qu'ils se sont fait violer et qui paralysées par la peur. Genre, il y a quelque chose de. Tu peux plus rien faire, ton corps ne réagit plus, ta tête veut réagir, mais ton corps ne réagit plus.
Sors de ton corps, en fait, t'es
ouais,
spectateur.
Ouais, c'est ça, t'es spectateur. Et c'est soit ça, soit essayer de se débattre. Mais ça me fait penser à. Il y a 3 ans aussi, du coup, on a travaillé le Tartuffe avec une scène du Tartuffe avec une professeure de Molière. Et en fait, elle nous l'a fait travailler en 3 versions. C'est-à-dire que tu avais une version tragique, une version comique et une version hyper trash. On voyait bien la différence entre la version hyper comique où tu rigoles et puis juste après, tu avais la version tragique et tu fais « Oh !» C'est un viol, en fait.
Ouais. Et en fait, c'est ça où les enjeux sont toujours là, ouais. Mais le comique, des fois, il peut complètement amener « Ah, c'est drôle !» Mais en fait, c'est ce qui est horrible, ouais. C'est qu'en fait c'est un viol.
C'est pas si drôle que ça, les propos. Ouais.
Dans le théâtre, on a tendance à. Alors, dans les pièces ou dans les mises en scène, est-ce qu'on a tendance à banaliser un petit peu ces violences ou alors, est-ce que c'est plutôt. On les voit plutôt comme quelque chose de comique? Est-ce qu'on arrive quand même à montrer l'horreur de la scène ou le tragique? Enfin, de votre point de vue de comédien, vous voyez ça comment en fait?
On peut toujours montrer l'horreur de la scène, même si c'est comique. Le théâtre, c'est aussi fait pour dénoncer justement ces choses-là. Et quelqu'un qui va rire à ça va peut-être finalement se rendre compte que, ah, mais en fait, ce qu'il a dit, c'était pas si drôle. Parce que vraiment, le théâtre, ça dénonce, quoi. Enfin, moi, je pars de ce principe-là que c'est politique et que du coup, ça a besoin de dénoncer les choses, de dire, ben, vous voyez ça, c'est pas terrible.
Ok, ça sensibilise, mais le problème, c'est que je trouve que ben, les personnalités qui vont aller voir le théâtre sont déjà sensibilisées. Et il y a une vague de pièces justement sur les violences conjugales. Ouais. Mais des fois, c'est trop, en fait, on en a marre de voir ça. En fait, les programmations, elles sont souvent ciblées sur toute une année, sur un même sujet. Et des fois, c'est amené un peu maladroitement. On s'est dit, ouais, la personne, elle a créé ça, peut-être parce que c'est... faut surfer sur la vague et tout.
C'est vrai que là, en ce moment, enfin, ces dernières années, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes sur les violences conjugales. Mais je pense que c'est aussi parce que les langues, elles se délient. Et que maintenant, on ose dire, il y a une femme qui est morte, il y a tant de femmes qui sont mortes. Enfin...
Les violences d'aujourd'hui sont complètement différentes. En fait, comme tu dis, les langues se délient.
Ouais.
Donc, ce qui, on a l'impression, par exemple, il y a 10 ans, c'est rien, c'était pas une violence. Bah, aujourd'hui, peut-être que des hommes ou des femmes peuvent prendre conscience qu'elles ont subi des violences ou que les hommes ont subi ou ont fait subir des violences.
Ne serait-ce que la question du consentement.
Oui, oui.
À l'époque, quelqu'un qui. Enfin, c'est bête, mais quelqu'un qui t'embrassait, entre guillemets, par surprise, même
c'était
si tu
drôle,
le voulais pas, c'est pas un truc, alors que maintenant tu vas te dire, ah mais non, en fait, c'est
une agression.
Ouais, je pense que c'est juste parce que les mentalités ont changé, les langues se délient et on en parle beaucoup, du coup, maintenant, enfin...
En France, on recense au moins 11 femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint depuis 2023.
Salut, on se retrouve pour une émission un peu spéciale pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Aujourd'hui, on est en compagnie de Charlotte qui est venue nous raconter son histoire. En un seul mot, quelle est la chose qui t'a le plus marqué, impacté dans cette histoire ?
Je dirais que c'est la solitude, parce que c'est ce qui a finalement été le plus dur à vivre quand tout ça est arrivé.
Et est-ce que tu peux nous raconter un peu cette histoire ?
À ce moment-là, j'avais 16 ans et lui, il en avait 21. On s'est rencontrés via un ami commun lors d'un FaceTime, tout bête. On s'entendait super bien et en fait, ils ont fait en sorte qu'on se rencontre par la suite. Ça a tout de suite matché, on s'entendait super bien et on a fini par se mettre en couple. On se voyait beaucoup au départ tous les week-ends, je dirais, même en semaine quand j'avais des heures de libre dans les journées ou même après les cours. Et à tel point qu'en fait, avec le temps, il est devenu ami avec mes amis. Ils se suivaient tous sur les réseaux, ils discutaient même entre eux. Donc, on avait vraiment fait un bon groupe d'amis. Et enfin, moi, je ne voyais pas forcément de problème à ce qu'il parle à mes amis. Je trouvais ça même cool, puisqu'il s'intégrait vachement bien dans mon cercle d'amis.
Et du coup, comment tout ça a dégénéré ? Vu que tu me dis qu'il a, il était ami avec tes amis, enfin, il s'intégrait dans ton groupe d'amis.
Bah, même si, en fait, ça se passait bien dans notre relation, avec le temps, il a fini par commencer à me faire des remarques. S'il voyait qu'il y avait une notification sur mon téléphone avec un nom de garçon, j'avais directement des remarques, j'y échappais jamais. Il venait à la sortie des cours pour voir avec qui j'étais quand je passais le portail du lycée. Il m'envoyait des messages pour savoir avec qui j'étais, où j'étais, ce que je faisais. C'était vraiment très intrusif et quand il en avait la possibilité, il venait vérifier, mais toujours en amenant de façon à ce que ça perturbe personne, du style il proposait de venir me faire un bisou, il proposait de venir me récupérer pour ensuite qu'on aille chez lui passer la soirée. Et je me disais pas que ça pouvait être bizarre en fait à ce moment-là. Et si jamais j'avais le malheur de refuser, bah, il finissait par s'énerver contre moi bien sûr. Et en fait un jour, il y a une fille qu'on connaissait vaguement qui a vécu une rupture difficile. Et mon ex a décidé à ce moment-là qu'il voulait être là pour elle et pour lui remonter le moral. Et même si on ne se connaissait pas plus que ça à ce moment-là, bon, après je peux comprendre, s'ils décident d'être là pour des gens, je trouvais ça correct. Et de fil en aiguille, finalement, ils se sont rapprochés. Ils me parlaient de leur relation, ils me disaient tout ce qu'en fait ils se racontaient l'un et l'autre, et ils se vantaient même du fait qu'elle se confiait super facilement à lui. Ils se voyaient aussi quand j'étais pas là, et si j'avais le malheur de lui dire que je trouvais qu'ils étaient un peu trop proches, directement ça partait en dispute. Ils me disaient que j'étais folle de penser ça, que c'était pas normal, que je devais lui faire confiance, que j'étais une personne horrible de le soupçonner de faire une telle chose. Et donc ça finissait très vite à dégénérer régulièrement.
Ah oui, donc c'était vraiment un jeu pour lui, quoi.
Oui, voilà, c'est ça. Et c'était, on le voyait dans sa façon de parler, que ça l'amusait en fait la situation, que ce soit une fille qui lui parle super facilement. Il se sentait vraiment fier de réussir à faire ce genre de choses. Et moi, dans un autre sens, en fait, j'étais un peu jeune et naïve. Hein. J'avais l'impression que je me disais que je me faisais des films, qu'il fallait que je lui fasse confiance, que je devais faire des efforts. Je me voyais la face jusqu'à ce que de petites choses me fassent prendre conscience qu'il me trompait finalement avec elle. Donc avec le temps, je me suis rendu compte qu'il me cachait son téléphone, alors qu'avant, il me demandait de faire des recherches dessus quand il n'avait pas les mains libres. Il ne voulait plus que je m'approche non plus de son téléphone, il le retournait toujours, le gardait de plus en plus dans ses poches. Et un jour, il l'a oublié de le retourner sur la table, et la fille en question lui a envoyé un message avec des cœurs, chose que mon ex ne faisait mais vraiment jamais. Il y a eu beaucoup de petites choses qui m'ont fait prendre conscience que ça n'allait plus et qu'il y avait quelque chose de bizarre dans cette histoire. Et en parallèle de tout ça, de mon côté, j'avais tout le temps droit donc toujours à des réflexions de sa part. Il continuait de me rabaisser et il me disait en rigolant aussi que ça l'amusait de faire du détournement de mineur avec moi. Et il me disait que j'étais pas jolie et que j'avais de la chance que lui ne fasse pas attention à mon physique. Et comme j'avais 16 ans, j'avais aucune confiance en moi, j'étais super introvertie et timide, je me faisais totalement marcher dessus et je me laissais faire. Et c'était n'importe quoi en fait finalement.
On peut dire là que tu étais sous son emprise carrément. Et comment tu as réussi à te libérer de cette emprise ?
Après 9 mois, j'ai fini par avoir la force de partir. Je ne voulais plus attendre et laisser les choses empirer. J'étais déjà à bout, en fait. C'est à ce moment-là que finalement le pire a commencé, quand j'ai décidé que je voulais le quitter. Il a décidé que s'il ne pouvait pas m'avoir, il préférait encore que je reste seule, mais vraiment seule. Sans personne, et à partir de ce moment-là, il a commencé à manipuler tout notre entourage, que ce soit sa famille, ses amis, mais aussi avec mes amis et ma famille. Il a réussi pour certains, et ça, dans un sens, ça m'a quand même permis de me rendre compte qui étaient mes vrais amis, mais il leur a dit des choses affreuses, que j'aurais fait des choses vraiment enfin voilà, que j'aurais fait des choses vraiment particulières, que je le trompais, que je l'aurais frappé, que je l'aurais insulté et que je le quittais aussi pour aller avec quelqu'un d'autre, et j'en passe, il y avait pas mal de choses de ce genre. On va peut-être pas s'étaler sur le sujet, mais ouais, donc ça a été finalement là que la descente aux enfers a commencé.
Du coup, il avait aussi une emprise sur ta famille, sur tes proches. Tu te sentais seule, j'imagine. Donc, quel a été ton sentiment face à tout ça ?
Oui, vraiment seule, en fait. J'ai eu l'impression que tout mon monde s'écroulait, puisque tout le monde me tournait de dos, ou en tout cas, une très grande partie de mes proches. Encore à ce jour, ma mère pense que je mentais à l'époque et que je mens toujours, parce que pour elle, son beau-fils, il était vraiment adorable et avec elle. Et en fait, elle n'imaginait pas faire ça. Donc, même encore à ce jour, elle a du mal à me croire sur le sujet. Donc, c'est vrai que je dirais que la solitude, quand on se sent presque trahi par sa propre famille, c'est vraiment la première chose qui ressort de tout ça, quoi.
Et concrètement, comment ça s'est passé quand tu l'as quitté ?
Après l'avoir quitté, en fait, il a commencé à harceler mes deux meilleurs amis, presque les deux seuls amis d'ailleurs qui me restaient à ce moment-là. Il les a harcelés pour qu'elles lui disent quand je sortais, avec qui, où est-ce que j'allais, avec qui je parlais aussi et si je me rapprochais de garçons. Il avait demandé à voir mon emploi du temps, et comme ça il pouvait savoir dans quel cours j'étais à quel moment, parce que je rappelle, il était plus vieux que moi, il avait fini les études et moi j'y étais toujours, j'étais au lycée. Il avait aussi gardé contact avec ma mère, il lui demandait de me convaincre de revenir, il a transmis un nombre incalculable de lettres à ma meilleure amie dans l'espoir qu'elle me les donne, mais jamais j'ai voulu les voir, je lui ai dit de les jeter, donc j'ai jamais vu tout ça. Il venait aussi m'attendre à la sortie de mon lycée pour me montrer qu'il était toujours là et qu'il me surveillait. Il faut savoir que pendant toute cette période, ou qui a bien dû durer entre 3 et 4 mois après la rupture, et pendant tout ce temps où il harcelait et il harcelait mes proches, il s'était mis officiellement en couple avec la fille avec qui il me trompait et qui m'a fait partir. Je me suis vraiment rendu compte à ce moment-là qu'il jouait sur deux tableaux. Officiellement, il était avec l'autre fille et puis dans son dos, il continuait à me dire qu'il voulait que je revienne, que j'étais la femme de sa vie et il continuait d'harceler ma famille. Donc c'est vraiment qu'il y avait un problème finalement. Et j'aurais aimé à ce moment-là pouvoir me sentir en fait finalement plus accompagnée et soutenue. Parce que même si mes deux amis ont été géniales, j'aurais aimé pouvoir compter sur une personne qui était totalement extérieure à la situation, qui aurait été juste là pour me rassurer et puis me guider, parce que j'étais qu'une gamine, j'avais 16 ans. Et des gamines entre elles qui se disent que ça va aller, ça n'a pas le même impact qu'un adulte. Donc c'est vrai que finalement, oui, c'est pour ça que je disais au tout début, la solitude, ça a vraiment été la chose qui m'a le plus marquée dans cette histoire.
Alors, je ne sais pas si tu savais, mais au sein de l'Université de Picardie Jules Verne, il y a une cellule qui a été ouverte spécialement pour les personnes victimes de violences sexistes et sexuelles, pour qu'elles puissent tout simplement parler de leur histoire à des psychologues. Est-ce que toi, dans ton histoire, dans ton vécu, ça aurait pu t'aider ?
C'est vrai qu'un tel dispositif, c'est vraiment important pour moi, parce que l'ayant vécu moi-même, je me dis que ça peut toujours aider, qu'on peut toujours se sentir soutenu et accompagné. Et c'est vrai que des fois, c'est bien plus simple de parler à un professionnel et à quelqu'un qui est totalement extérieur à son cercle proche de connaissances. Et c'est vrai que les violences faites aux femmes, ça peut commencer à n'importe quel âge, que ce soit au lycée, au collège aussi, ou même après dans les études supérieures. Donc je trouve ça vraiment bien qu'ils aient mis ça en place déjà à l'UPJV. Et après, ce qui serait vraiment intéressant et important, selon moi, c'est vraiment de former même les équipes pédagogiques dans les établissements, collèges, lycées. Je trouverais ça super important que les équipes soient formées, en tout cas, à réagir à ce genre de situation qui peut arriver n'importe quand.
Merci Charlotte, à toi, pour ton témoignage qui peut aider de nombreuses filles qui sont peut-être dans le même cas que toi.
Merci à toi, Kaïsa, de m'avoir reçue. C'est vrai que c'est libérateur de pouvoir parler de toute cette histoire et de pouvoir finalement tourner la page une bonne fois pour toutes et passer à autre chose.
Depuis toujours, la culture est le reflet de la société. Le cinéma, la musique, la littérature, l'art, autant de moyens de véhiculer des messages, parfois bons, parfois mauvais. Longtemps, les violences sexistes et sexuelles ont été banalisées. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la musique et le cinéma. À toute époque et dans tout genre musical, on retrouve des insinuations, des allusions, parfois même des tournures plus brutales pour parler des violences faites aux femmes. Ces dernières peuvent être représentatives d'une époque, comme lorsque Brassens chantait « La fessée » en 1966.
Un tablier de sapeur, ma moustache pincée. Cette comparaison méritait la fessée. retroussant l'insolente avec nulle tendresse. Est-ce conscient d'accomplir somme tout un devoir, mais en fermant les yeux pour ne pas trop en voir. Paf, j'abattis sur elle une main vengeresse.
Ce qui dérange dans cette chanson, c'est la banalisation du geste qui n'a nullement lieu d'exister, mais également la réaction de la femme imaginée par l'interprète. Elle est montrée comme niaise et acceptant avec coquetterie la violence qu'elle reçoit. Quelques années plus tôt, c'était Louis Massy qui interprétait « Une bonne paire de claques », chanson écrite par Boris Vian.
Quand elle a foutu le camp, on l'emporte en argent et la machine à coudre. En vous laissant l'évier plein de vaisselle pas lavée et le sel dans le sucre en poudre. Quand votre meilleur copain téléphone le lendemain en disant « Viens la reprendre ». On ricane et l'on pense, attends un peu Hortense, qu'est-ce que tu vas prendre ? Une bonne paire de claques dans la gueule, un grand coup de savate dans les fesses, un marron sur les mandibules. Ça t'offra une deuxième jeunesse. Une bonne paire de claques dans la gueule, un direct au creux de l'estomac, les orteils coincés sous une molle, un coup de pompe en plein tagada. Tu t'ennuyais dans ma petite chambre, tu soupirais, tu voulais du nouveau. Dorénavant, de janvier à décembre, compte sur moi pour t'offrir à gogo. Une bonne paire de claques dans la gueule, et ça me consolera, ma chérie. Des soirées où tu manœuvrais le rouleau à pâtisserie. Tu t'en souviens du rouleau à pâtisserie? Eh ben tiens donc, et vilaine, toi qui as abusé de mon cœur.
Des propos crus, des clichés qui ne passent plus, une violence insoutenable cachée sous une bonne humeur malsaine. Cette même bonne humeur, on la retrouve en 2013 avec le tube Blurred Lines de Robin Thicke, en feat avec T.I. et Pharrell Williams. Plus de 900 millions de vues sur YouTube. La musique fait polémique, en cause des paroles graveleuses qui vont à l'encontre même de la notion de consentement. « Je sais que tu le veux, je veux une gentille fille. » Le son est considéré par certains comme une apologie du viol, une situation qui n'est pas arrangée par le clip vidéo qui l'accompagne. Au programme, deux versions. La première montrant trois modèles, seins nus, dansant lascivement, tandis que les trois artistes sont pleinement vêtus, ainsi qu'une seconde, censurée, un clip à l'image des paroles, dégradant pour la femme. C'est d'autant plus grave compte tenu de l'époque. Malgré les prises de conscience récentes, grâce au mouvement MeToo, certaines mentalités n'évoluent pas. C'est également le cas de Taïk, qui a récemment été l'auteur d'une polémique. Sa dernière chanson, Quand tu dors, est accusée de faire l'apologie du viol conjugal. On peut notamment citer les paroles « Je rentre du boulot, toi tu dors déjà, et plutôt que de te réveiller, je... Ah, et puis laisse tomber. Je suis rentré, mais tu dors, je dois te réveiller. Pourquoi te le dire ? Pourquoi prévenir ? Ça ne te demandera aucun effort. » Ou encore, « Toi, tu dors encore, tes lèvres sont fermées, mais j'entends ton appel, je dois te consommer. » Une accusation qu'il a niée avant de finalement retirer la chanson des plateformes de streaming.
Notre rapport aux violences sexistes ou sexuelles et la vision que nous en avons sont aussi véhiculés par le cinéma. De la petite enfance à l'âge adulte, films, dessins animés, séries, sont autant de médiums qui forgent en partie notre façon d'appréhender le monde et notre société. La manière de dépeindre certains comportements à l'écran peut alors s'avérer décisive, car cela va influencer des générations entières, souvent de façon inconsciente. Lorsqu'une grande figure du cinéma est iconisée, servant de héros, de modèle à un grand nombre de spectateurs qui vont leur reproduire certaines de ses attitudes, il est important de veiller sur l'image qu'il va véhiculer. En 1962, de la caméra du réalisateur britannique Terence Young, naît le premier film d'une longue série qui marquera à jamais le 7e art de son empreinte.
We'll be right back.
Et dès sa première apparition, son protagoniste est considéré comme l'un des plus grands héros de l'histoire du cinéma. James Bond, alias 007, surgit depuis la plume de Ian Fleming et rejoint le grand écran, sous les traits de Sean Connery, devenant ainsi pour beaucoup une sorte d'idéal masculin. Héros charmeur aux multiples conquêtes. Pourtant, un regard actualisé sur le personnage permet de prendre conscience de nombreux problèmes à l'époque passée sous silence. Ainsi, dans le film Goldfinger, projeté dans les salles obscures en 1964, l'espion fait l'impasse sur la question du consentement et oblige une femme à céder à ses avances, malgré ses protestations. À aucun moment, l'acte n'est pourtant qualifié de viol. L'année suivante, dans le film Opération Tonnerre, 007 récidive, usant du chantage pour obliger une femme à coucher avec lui. La banalisation de tels comportements, et même la glorification du personnage responsable de ses agissements, participe ainsi à la propagation de la culture du viol. La prise de conscience de ces problématiques et l'intérêt pour nos valeurs actuelles ont heureusement changé les choses. Alors que l'agent secret du MI6 est désormais incarné par Daniel Craig, depuis le film Casino Royale paru en 2006, il fait progressivement table rase de ce passé houleux. Déjà devenu respectueux du consentement de ses partenaires, son attitude de charmeur invétéré va aussi être remise en question au sein de ses nouveaux films et questionnée par d'autres personnages, l'accusant d'avoir un rapport aux femmes loin d'être sain et sans conséquences, notamment dans le film cité plus tôt, ou encore par sa supérieure, M, dans sa suite Quantum of Solace, sortie en 2008. Le réalisateur de No Time to Die, dernier opus en date, Kari Joji Fukunaga, tenait personnellement à insister sur ces changements nécessaires, lui-même convaincu que le comportement du James Bond des années 60 était celui d'un violeur.
Dink, say goodbye to Felix. Man talk.
Who was that man in your room?
You're hurting me.
I thought that was the idea tonight.
Now, who was he?
I don't know what you're talking about.
There's something I'd like you to get off your chest. Where is Ernst Stavro Blofeld? Speak up, darling, I can't hear you.
Mais heureusement, de plus en plus d'artistes commencent à parler de ces comportements inadmissibles et par le biais de leur musique en font la prévention. On peut citer la jeune rappeuse Tila qui sortait Balance ton porc en 2018.
Combien de fois, combien de femmes, combien au succombé aux frappes du mal et son culte, ouais. Sois innocente et pure, loin de leurs rêves obscurs. T'as du talent, c'est sûr. Donc ferme-la et suce.
Le clip commence avec des captures d'écran de commentaires extrêmement désobligeants vers la chanteuse, allant des clichés sur le ménage aux menaces de viol. Un an plus tard, c'est la chanteuse Angèle qui prend la parole avec Balance ton quoi, véritable succès avec 110 millions de vues sur YouTube.
Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes, une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi.
Les paroles commencent alors à se délier, les mentalités changent. Puis intervient le confinement en 2020. Les signalements de violences conjugales et intrafamiliales augmentent de 30%. Certes, les violences augmentent, mais les victimes prennent plus facilement la parole. Le 16 juillet 2021, le rappeur Laylo sort son nouvel